Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. À l'approche des élections présidentielles aux États-Unis, toute cette semaine, on parle de l'Amérique qu'on aime et de nos rêves américains. Mais existe-t-il un French Dream, un rêve français pour les Américains? Écoutez ce qu'un des plus grands arrangeurs de musique pop américaine du XXe siècle a dit à ce propos. En France, j'ai enfin pu embrasser mon passé, mon présent et mon avenir en tant qu'artiste et homme de couleur. Et j'ai étendu ma perception de la condition humaine, tant dans le domaine artistique que dans la vie. Grâce à la France, je me suis enfin senti libre et heureux d'être moi-même. De qui s'agit-il? Je vous laisse deviner un peu. Cet immense artiste américain a eu une longue et fructueuse histoire avec la France et les éditions Frémo et Associés ont eu la bonne idée de sortir en CD un de ses concerts mémorables en France à l'Olympia le 14 mars 1961, le jour de ses 28 ans. Mon invité ce matin, le spécialiste de jazz Michel Brier, n'y était pas, mais il sait à peu près tout de ce concert mémorable.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Alors, si vous avez répondu Miles Davis, vous avez perdu. Je suis désolé. Il s'agissait, bien sûr, de Quincy Jones. Bonjour, Michel Brier.
Bonjour, Toufik.
Vous êtes spécialiste de jazz. Vous avez connu les meilleurs amis de Quincy Jones en France, puisque vous avez commencé à travailler avec eux, hein, avec Daniel Filipacchi, avec Frank Teno, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup fait pour Quincy Jones à l'époque où ils étaient les maîtres du jazz en France.
Alors, en fait, ils étaient très amis. Daniel Filipacchi et Quincy Jones étaient très amis depuis dès l'arrivée de Quincy à Paris, il a dû venir une fois avant avec un big band, mais en 57 il vient étudier la composition musicale avec la grande professeure Nadia Boulanger, et là il s'installe à Neuilly dans un petit appart, et dès cette année-là, par exemple, on voit une couverture du magazine Jazz Magazine qui vient d'être acheté à Eddie Barclay et Nicole Barclay par Daniel Filipacchi, et sur cette couverture il y a Quincy en maillot de bain dans la mer, dans la Manche à Cabourg, c'est bien, ça doit être ça. Et avec sa petite fille sur le dos, et c'est Daniel qui a pris la photo et il a mis cette magnifique photo en couverture de son magazine. Donc déjà là, ils sont là.
Vous dites que ce concert à l'Olympia en 1961 est un concert important parce que il marque un tournant dans la vie de Quincy Jones. Il ne sera plus musicien de jazz, mais il va être aussi arrangeur à partir de là.
Je crois que c'est à ce moment-là que il prend conscience que c'est un boulot. Et que il faut qu'il travaille et qu'il développe ses talents, alors qu'avant c'était un peu un dilettante. Il avait beaucoup de capacités pour l'arrangement. Il avait des copains. Il était très copain avec Ray Charles. Il a fait l'album avec Ray Charles, les arrangements de Quincy Jones, qui est un très bel album. Et il a fait Genius plus Soul Egal Jazz aussi, qui est un autre formidable album de Ray Charles. Mais cette aventure parisienne et ce qui est que reflète ce concert, pendant laquelle il a erré pendant presque 2 ans avec un big band en crevant la faim, en faisant des petites gigs un peu à droite et à gauche, ça l'a fait penser. Il a grandi. Et donc, en rentrant aux États-Unis, après cette prestation, quelques mois plus tard, il a dit, je me mets au boulot. Et il a commencé à arranger pour tout le monde. Pour aussi bien pour du jazz, qui était toujours son jardin secret.
Que la chanson populaire,
pour la chanson populaire, la pop, Leslie Gore, It's My Party, Peggy Lee, il a fait feu de tout bois.
Alors, est-ce qu'on peut dire, Michel Brier, que le Quincy Jones arrangeur, le grand arrangeur qui va produire au début des années 80 l'album du siècle, c'est-à-dire le Thriller de Michael Jackson, cette vocation est née en France? Parce que ce qu'on apprend dans votre texte qui accompagne donc ce disque et ce concert de 1961, c'est que, d'accord, il y a eu Daniel Filipacchi, Frank Thénault et Eddie Barclay qui l'a pris sous sa coupe, mais surtout c'est une femme qui décide d'utiliser Quincy Jones comme
Nicole
Barclay. Elle sent, elle flaire que cet homme-là, ce musicien-là, pourrait faire des arrangements pour la musique populaire, pour la variété.
Elle est un peu aidée quand même. Hein. À l'époque, Nicole Barclay, qui était vraiment l'âme artistique du label Barclay, Eddie est en plus l'homme de
mondain,
quoi. Le mondain et peut-être un peu le business quand même. Hein.
Ouais.
Nicole était très businesswoman. Elle avait un pianiste sous contrat qui s'appelait Billy Eckstein, et donc elle discute avec Billy Eckstein et elle dit j'ai besoin d'un mec qui pourrait m'arranger pour tous mes artistes. Là, j'ai Barclay, j'ai Brel, j'ai Aznavour. Qu'est-ce qu'on fait? Eckstein lui dit appelle Quincy Jones. Elle appelle Quincy Jones. Allô, bonjour, Nicole Barclay, bonjour, hello. Est-ce que vous voudriez venir travailler pour moi en France? Et Quincy, on en reviendra sur l'image de la France pour les Noirs américains. Quincy dit, oui, mais est-ce que je pourrais arranger avec des cordes? Parce que c'était son rêve, c'était de faire des... Alors que lui, c'est un mec de big band, le plus
sorcier black,
le plus vague. Il voulait faire des arrangements avec des violons, ce type. Et Nicole lui dit, my darling, mais en France, vous pouvez faire ce que vous voulez.
On est en quelle année, Michel Brier?
On est en 58.
The Midnight Sun Will Never Set de Quincy Jones en live à Paris, à l'Olympia, le 14 mars 1961. Michel Brier, vous qui êtes spécialiste de jazz et directeur de collection, ce morceau, il l'avait composé pour Henri Salvador parce qu'il avait autour de lui le tout Paris qui comptait, hein, c'est-à-dire Boris Vian, Henri Salvador, Brigitte Bardot.
Mais c'était fou, c'était incroyable. Il était vraiment arrivé dans... par hasard dans cet univers. Alors moi, c'est un peu une marmite incroyable de bouillonnante de talents divers, viand comme vous le dites. Et puis cet univers était un peu sous l'égide de ceux que j'appelle les rois mages du showbiz de l'époque, c'est-à-dire pour le spectacle, c'était Bruno Cocatrix avec l'Olympia. L'édition musicale, c'était Eddie Barclay avec son label, qui était le label en top niveau de l'époque. Et pour les médias, Lucien Maurice, le directeur des programmes d'Europe 1, radio qui diffusait l'émission de jazz de Daniel Filipacchi pour ceux qui aiment le jazz.
Et la presse aussi, hein, parce qu'il y avait aussi le
Jazz Mag.
Jazz Mag. Si on parlait de ce rêve français pour ces musiciens noirs américains, Michel Brier.
Ça, c'est un truc qui, alors, à chaque, moi, j'étais trop petit pour les connaître personnellement, même si j'en voyais quelques-uns qui défilaient. Dans toutes les mémoires de tous les musiciens de jazz américains de cette période, à commencer par Quincy, avec les magnifiques hommages à la France que vous avez cité tout à l'heure, c'était pour eux, les gens disaient, mais va en France, Memphis Slim. Je me souviens, Memphis Slim, par exemple, le grand bluesman, il est venu en France parce qu'il était copain avec Big Bill Bonzi, qui est un autre grand du blues américain, et que Big Bill lui a dit un jour à Chicago, il dit, Memphis lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il dit, mais va en France. Il dit, oh, bon, pourquoi la France? Il dit, en France, c'est pas compliqué. Tu vois une femme qui passe à bicyclette devant toi, tu prends une bicyclette et tu la rattrapes, et ça marche. Et donc, c'est pour ça que Memphis Slim, c'est ce qu'il raconte, hein, est venu en France. Mais c'était un paradis de liberté parce que les Noirs américains avaient une aura particulière, notamment auprès de l'intelligentsia de Saint-Germain-des-Prés, mais ils se sentaient totalement libres, à la fois sur le plan des relations personnelles. Ils ne sentaient pas la chape de plomb qu'il y avait aux États-Unis à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui.
Mais il faut nuancer quand même, hein. Il y avait effectivement cet engouement pour le jazz et pour les musiciens noirs américains qui étaient bien accueillis à Saint-Germain, mais Quincy Jones, pour ce concert en particulier à l'Olympia en 1961, il raconte quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire que on est en pleine guerre d'Algérie, la guerre d'Algérie dans sa dernière phase, c'est-à-dire la phase la plus violente, le conflit s'est déplacé en France, et la presse américaine, le jour du concert de Quincy Jones, prévient tout le monde en disant, surtout faites attention à partir de 18h, si vous êtes basané, ce n'est pas bien.
Il vaut mieux rentrer chez soi. Ouais.
Voilà. Et des musiciens de Quincy Jones, qui n'étaient pas des Algériens, parce que là il s'agissait bien du conflit algérien, ont été arrêtés, ils n'ont pas pu jouer.
Oui, c'est ce que...
Donc il y avait les deux en même temps. Hein.
Il y avait les deux, et cette ambiguïté. Mais ça me fait penser à un autre truc, c'est que vous savez que le 17 octobre 1961 a eu lieu à Paris une gigantesque ratonnade d'Algériens qui manifestaient pour...
Pacifiquement,
tout à fait.
Et, pour l'indépendance de leur pays, certains ont été jetés dans la Seine.
Voilà, absolument. Et le lendemain, Ray Charles est arrivé en France pour faire un concert au Palais des Sports. Or, la plupart des manifestants qui ont été arrêtés ce soir-là ont été parqués au Palais des Sports. Et le lendemain, donc, Ray Charles a retrouvé cet endroit pour faire son premier concert. Il paraît même, dit-il, qu'il y a eu des contacts avec des émissaires du FLN qui ont garanti à son équipe qu'il n'y aurait pas de problème, qu'ils pouvaient jouer. Le FLN a donc dit à Ray Charles, OK, pas de problème, vous pouvez jouer.
Pour revenir à Quincy Jones, Quincy Jones n'était pas très politique, on peut le dire.
Non.
Oui, c'était la musique, oui. La vie, les femmes, beaucoup aussi.
Beaucoup.
Ouais. Et puis, qui a décidé de l'appeler Q?
Mais c'est toujours à la même époque, c'est cette époque bénie où il se balade avec Eddie Barclay, il fait des dîners incroyables, donc, dont on a parlé tout à l'heure, et puis, un jour, au bureau d'Eddie Barclay, le téléphone sonne, et bonjour, c'est le secrétariat du prince de Monaco, nous voudrions inviter Quincy Jones pour diriger l'orchestre qui va accompagner Frank Sinatra pour un gala de charité. Alors évidemment, c'est oui. Et donc Barclay et toute sa bande filent au Sporting Club de Monaco pour préparer cette prestation exceptionnelle. Sinatra arrive, toujours très précis, etc. Les répétitions ont lieu. Il dit pratiquement pas un mot à Quincy Jones, qui était un peu dans ses petits souliers. Hein. C'était important pour lui, Sinatra.
Hein. Oui, c'était la voix.
Donc, le spectacle a lieu. Tout se passe très, très bien. Et à la fin du spectacle, Sinatra va voir Quincy Jones. Il lui tape sur l'épaule. Il fait « Nice work, Q. Bon boulot, Q. » Et c'est comme ça que le surnom est parti.
Quincy Jones à l'Olympia, un 14 mars 1961, à 18h, puisqu'il y avait deux concerts ce jour-là de Quincy Jones et de son Big Band. Ils étaient combien sur scène, Michel Brugnier?
Entre 15 et 18, mais il faudrait que je recompte.
Et là, qu'est-ce qu'on écoute
Monin, c'est le thème de Bobby Timmons que les Jazz Messengers avaient fait découvrir quelques années auparavant, 2-3 ans, je crois, et qui est toujours l'un des classiques du soul jazz, quoi.
Est-ce qu'on peut dire que c'est le dernier grand moment jazz de Quincy Jones, qu'après ce concert, après cette tournée, il va devenir le grand arrangeur de la pop music?
Il va quand même rester assez proche de ses racines, parce que plus tard dans les années 70, il fait des albums formidables pour une marque qui s'appelle CTI, Ghulam Atari, Walking, etc., Killer Joe, tout ça, c'est 69-68, ça sonne vraiment très très bien aussi, il n'a pas perdu la patte. Hein.
Et aujourd'hui, Quincy Jones, il est où?
Il doit être chez lui, 87 ans. Il doit être chez lui quelque part entre Malibu et je crois qu'il vit un peu sur la côte ouest. Il se balade un peu, peut-être sur un bateau aussi aux Bahamas. Ça doit pas être exclu, ça. Hein. Mais je me fais pas trop de soucis pour lui. Hein.
Alors, c'est quoi la spécificité de Quincy Jones pour vous, Michel Brugnier? C'est celui qui, venant du jazz, a réussi à devenir le grand arrangeur de toutes les musiques populaires du XXe siècle?
Je crois que c'est un type qui s'est laissé guider par son instinct, par sa versatilité, c'est son adaptabilité aussi, je crois. C'est un formidable artisan de la musique et il a su capter chez les uns et les autres ce qui était important à mettre en valeur. Chez Michael Jackson, il a reniflé le talent de le génie de ce mec pour le mettre en valeur. C'est ça son grand talent.
Thank you. Il a fait aussi quelques bandes originales. Il a travaillé pour le cinéma. Il est passé à côté de quelques grands films comme Ascenseur pour l'échafaud.
Oui, il pouvait pas. Donc bah, il pouvait pas. Mais il a donné ça à un copain.
Voilà, un copain. Et puis, mais en revanche, il a fait quelques films américains très importants comme Dans la chaleur de la nuit, par exemple.
Oui, il a fait La couleur pourpre avec Spielberg et il a fait pour moi un truc assez formidable qui s'appelle De sang froid sur l'œuvre d'après l'œuvre de Truman Capote. Il a fait la musique, le score de ce film. Et si vous le trouvez un jour, écoutez-le, c'est impressionnant.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Ça, c'est pour vous faire plaisir, cher Michel Brier.
C'est sur ces notes de Count Basie, le morceau Rat Race, arrangé par Quincy Jones, que j'ai fait la rencontre peut-être la plus importante, celle de Daniel.
Daniel Filipacchi. Vous n'êtes pas un enfant du rock, vous êtes un enfant du jazz. De cette belle période du jazz.
C'est la même chose.
Ouais, c'est la même chose.
Un peu.
Alors, comment êtes-vous arrivé, justement, Michel Brier, à rencontrer tous ces grands ténors du jazz que sont Franck Thénault et Daniel Filipacchi?
Mais c'est par hasard, tout fixe. Vous savez, c'est un truc, c'est formidable, ce métier, parce que ça se fait un peu encore, je pense, avec une certaine spontanéité. Et à l'époque, Europe 1, c'était le royaume de l'improvisation et de l'instinct. Donc je l'ai rencontré par hasard parce que mes parents habitaient à côté. Et au bout d'une heure de conversation un peu à bâton rompu, il m'a dit « Bah tiens, Daniel me dit, bah, cherche des mômes de ton âge pour présenter l'émission avec moi, est-ce que ça t'intéresse ?» J'ai fait « Ouf !» Et il m'a dit « Mais tu sais, tu seras payé !» Et voilà, c'est parti comme ça.
Et maintenant, vous êtes directeur de collection. Et c'est notamment grâce à vous qu'on peut retrouver en CD ce concert de Quincy Jones à l'Olympia en 1961. C'était le jour de ses 28 ans. Hein. C'était,
ouais.
C'était aussi ça.
Bel anniversaire.
On n'y était pas. Mais avec le disque,
j'aurais
c'est
pu,
presque.
Mais j'y étais pas plus.
Avec le disque et votre texte, c'est presque si on y était.
C'est gentil.
Merci d'être passé ce matin.
Merci à vous, Toufik.